přehled informativní
z Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Ninan Wang de la rédaction chinoise. Pour la manière dont Pékin se prépare afin de limiter l'épidémie de Covid, pour qu'elle ne gâche pas les Jeux Olympiques qui commencent dans 2 semaines. Et Lê Thuong de la rédaction vietnamienne.
Si, ciao.
Pour un état des lieux des relations qu'entretient le Vietnam, justement, avec les États-Unis. Et puis pour la rédaction roumain, Matei Vișniec.
Bună seara.
Pour nous parler de Molière, qui était né voilà 4 siècles, et de la place qui est la sienne en Roumanie, avant et après la chute du communisme. Bonsoir à vous tous. Mais tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité, ce sont les bruits de bottes en Ukraine, avec cette menace d'invasion russe. La rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine aujourd'hui à Genève n'a comme prévu débouché sur aucun résultat tangible. Du reste, les deux pays sont convenus de poursuivre le dialogue pour tenter de trouver une issue. Kiev et Moscou sont à couteau tiré depuis l'annexion par la Russie en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée, suivie d'une guerre dans l'est de l'Ukraine avec des séparatistes pro-russes, un conflit qui avait fait plus de 13 000 victimes. Ninan Wang, cela fait donc des mois que la crise dure et... les négociations également.
Oui, la crise a bien commencé depuis 2014 et a monté d'un cran depuis le mois de décembre. Les Américains appuient sur des images de satellites et d'autres recherches des intelligences et évoquent d'une concentration d'environ 100 000 soldats russes près de l'Ukraine, voire 130 000 selon certains rapports ukrainiens non officiels, et parlent d'une possible invasion russe cette année. La Russie réfute d'une telle intervention militaire, explique qu'elle a le droit de déployer ses armées sur son propre territoire. Vladimir Poutine, lui, veut justifier ce déploiement militaire par le fait que la présence de l'OTAN est trop proche d'elle et a ainsi proposé 2 traités de sécurité s'adressant respectivement à l'OTAN et aux États-Unis. L'essence de ces traités vise à limiter toute expansion, surtout vers l'Est et vers l'Ukraine de l'Alliance Atlantique. Et deuxièmement, bannir des manœuvres militaires des Américains et leurs alliés en Europe de l'Est et en Asie centrale. En vue de ces propositions russes, la Russie, les États-Unis et l'Europe se sont parlé sans progrès ni véritable entente. Surtout quand la Russie pose la désescalade en Ukraine sur la seule condition que les Occidentaux signent ces traités, dont certains points sont jugés impossibles par l'autre.
Et je le disais, Russes et Américains se sont vus aujourd'hui, rencontre au sommet. Le ministre américain des Affaires étrangères avertit que les États-Unis pourraient fournir des armes à l'Ukraine, en plus de la prise de sévères sanctions économiques. Quant aux Européens, Ninan, ils se sont alignés sur les Américains, mais avec une approche moins agressive.
Les Européens sont face à la Russie aussi francs et déterminés que les Américains sur le fond. Mais sur la forme, ils ont opté des mots plus retenus. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné la ligne rouge pour la Russie, c'est de ne pas envahir l'Ukraine, tout en rappelant qu'il y a des liens importants entre l'Europe et la Russie à préserver. Voici son discours lors du Forum économique de Davos en Suisse.
We hope an attack won't happen, but if it does, we are prepared. Russia and Europe share geography, culture, history. We also want a common future.
C'est donc la présidente de la Commission européenne qui parle.
Oui, elle rappelle que l'Union est de loin le plus grand partenaire commercial de la Russie et de loin son plus grand investisseur. Et que la Russie et l'Europe partagent la géographie, la culture et l'histoire. Nous voulons aussi un avenir commun, dit-elle. Nos difficultés ne sont pas avec la Russie ou avec son peuple, mais avec la politique dangereuse du Kremlin.
Alors revenons-en aux États-Unis. Ils promettent de fournir une aide militaire. Dans quel terme, dans quel volume ?
Depuis 2014, les États-Unis ont déjà fourni plus de 2,5 milliards de dollars de soutien à la défense de l'Ukraine. Ils vont leur allouer 200 millions de dollars supplémentaires, selon le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, le 20 janvier, ce qui porte le montant total à 650 millions en 2021. Mais ils n'ont pas annoncé que les États-Unis organiseront une telle ou telle défense militaire pour Kiev. Ce qui est sûr, c'est que les Américains ne vont pas s'y impliquer directement. Voici les perspectives selon Robert Burns, rédacteur d'Associated Press pour la sécurité nationale.
There is what might be done to deter
a potential invasion by Russia, and then there's how might the US respond to an actual invasion by Russia.
Que dit Robert Burns?
Il explique que l'accent américain est toujours mis sur la diplomatie et les sanctions économiques, mais il y a aussi un élément militaire à cela. Pour le moment, le moyen principal de persuader Poutine de ne pas envahir l'Ukraine, c'est de fournir à l'Ukraine des armes défensives et d'autres moyens pour se défendre. En toutes circonstances, on ne s'attendrait pas à ce que les troupes américaines soient impliquées de manière directe. Il y aurait la possibilité de se laisser traîner d'une manière ou d'une autre, mais ce ne serait pas l'intention.
Qu'est-ce que dit cet expert encore sur le rapport de forces militaires en cas de conflit?
Robert Burns souligne que même avec le soutien américain, l'armée russe est largement supérieure à l'armée ukrainienne, sans parler du fait que la puissance aérienne et navale russe est de loin supérieure. Pourtant, bien que les Russes ont une supériorité écrasante, ils auront un prix élevé à payer, à l'immédiat, à moyen terme et à long terme, s'ils envahissent l'Ukraine. Et les États-Unis auront eux aussi le choix d'envoyer ou de renforcer les défenses d'autres pays de l'OTAN sur le front oriental.
Matej Wiśniak, vous avez abordé, vous, pour la rédaction Langue Roumaine, la question de l'unité de l'Europe devant cette menace russe. Mais derrière la façade, il y a des divergences. Hein.
Oui, j'ai cité des éditorialistes qui disent que dans le contexte de cette crise, il y a trois groupes de pays en Europe. Un premier groupe très anti-russe qui comprend la Pologne, les pays baltes, mais aussi la Suède et les Pays-Bas. Et je peux inclure ici la Roumanie. Un deuxième groupe de pays qui critique la Russie, mais qui cherche toujours à maintenir le dialogue avec Moscou. Ce groupe comprend par exemple la France, l'Allemagne et la République tchèque. Quant aux pays du troisième groupe, ils ne se sentent pas menacés par Moscou et tentent d'accroître leur échange avec la Russie. Ce groupe comprend la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Mais peut-être que justement l'Alliance Atlantique et l'unité occidentale vont renaître dans le contexte de cette crise face à l'adversité. Quoique, pour les Américains, le problème ukrainien et les menaces russes tombent mal, car ils voulaient se concentrer surtout sur la menace chinoise. La Chine est, pour les Américains, la menace principale, donc, c'est un adversaire redoutable pour les États-Unis, pour tout le 21e siècle, car la Chine est une puissance qui veut se substituer aux Américains dans tous les domaines économiques, finances, technologies, exploration spatiale, industrie militaire. Le président américain Joe Biden aurait préféré trouver un accord avec les Russes pour avoir les mains libres.
En tout cas, pour l'instant, c'est le ministre américain des Affaires étrangères qui est en Europe, donc à Genève, hein, pour tenter de persuader les Russes d'emprunter une voie diplomatique et pacifiste pour sortir de cette crise. Mais en même temps, la Russie augmente ses dispositifs militaires, on va dire, à la frontière avec l'Ukraine.
Il est difficile de dire ce qui se passe dans la tête de Poutine, qui prétend ne pas avoir l'intention d'attaquer l'Ukraine, et on ne sait pas dans quelle direction vont les pourparlers entre les Russes et les Américains. Cependant, Washington a tiré plusieurs sonnettes d'alarme au cours des 4 ou 5 derniers jours sur l'intention apparente de la Russie d'envahir l'Ukraine. Les États-Unis sont également préoccupés par l'éventuel déploiement d'armes nucléaires russes en République de Belarus, ainsi que par un certain nombre de manœuvres militaires russes importante sur le territoire biélorusse. En tout cas, la méfiance est totale entre Russes et Américains d'un côté, entre Russes et Ukrainiens de l'autre, et l'Union européenne semble prise au beau milieu de ce jeu, sans être prise trop au sérieux ni par Moscou ni par Washington.
Washington, justement, les États-Unis continuent d'aider les Ukrainiens. Avec également d'autres pays.
Hein. Oui, à la fin de l'année dernière, les Américains ont fourni 450 millions de dollars d'aide militaire à Kiev. Et récemment, voilà, l'administration Biden a débloqué encore une aide supplémentaire de 200 millions de dollars. Cette semaine, Anthony Blinken a sûrement discuté avec ses alliés, les Allemands, les Français, les Britanniques, de l'aide qui doit être accordée à l'Ukraine. L'Allemagne refuse pour l'instant de fournir des armes à l'Ukraine, mais le Royaume-Uni a annoncé qu'il fournirait des missiles anti-chars à l'armée ukrainienne.
L'Allemagne, toutefois, Matej Wiśniak, n'est pas entièrement passive. Hein.
Non, au début de la semaine, il faut se rappeler, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est également rendue à Kiev et à Moscou, affirmant que son pays s'engage à assurer la sécurité de l'Ukraine face à la Russie. Mais son homologue russe, Sergei Lavrov, avec qui a discuté donc Annalena Baerbock, veut des assurances que l'Ukraine ne sera pas acceptée dans l'OTAN. Sergei Lavrov exhorte également les Américains à ne pas reprendre des spéculations sur une attaque russe imminente. Dans ce contexte, l'actualité se mêle, enfin mêle les rumeurs et les spéculations. Les Américains prétendent que Moscou a envoyé des provocateurs en Ukraine pour des opérations de sabotage ou pour créer des incidents susceptibles de fournir à la Russie le prétexte d'une invasion.
Oui, tout ça est très, très complexe, très compliqué. En résumé, Mathieu ?
On peut dire que la diplomatie est en action, mais des incertitudes demeurent. Les vagues de la guerre froide se propagent également dans la région de la mer Baltique, où la Suède connaît une concentration massive et inhabituelle des navires russes. La Russie, notons-le, veut obtenir de l'Occident la garantie que ni la Suède ni la Finlande ne seront intégrées à l'OTAN.
Les Tuang, je me tourne vers vous à présent. Comment ce conflit, alors diplomatique pour l'instant, entre la Russie et l'Ukraine et l'Occident, est vu par les Vietnamiens ?
Alors, pour l'instant, ils suivent l'évolution des événements, mais n'expriment pas le point de vue. Alors, les médias vietnamiens, y compris ceux d'État, cherchent à apporter les informations les plus neutres sur la position de chaque partie du côté russe, ukrainien ou occidental. Un point intéressant qui pourrait expliquer ce détail, c'est que beaucoup de Vietnamiens vivent en Russie et en Ukraine. Ils ont fait et continuent à faire leurs études en Union soviétique et actuellement dans ces deux pays. Alors, l'homme le plus riche du Vietnam, M. Van Vuong, propriétaire du Vingroup et la marque automobile VinFast, a vécu et fait une partie de sa fortune en Ukraine pendant plusieurs années avant de retourner s'installer au Vietnam. Et en Ukraine, les Vietnamiens vivent nombreux à Kiev, Odessa et Kharkov. Environ 3000 Vietnamiens et étudiants vietnamiens vivent actuellement à Kharkov, dans l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie, et ils souhaitent que le pire ne se produise pas en répondant à un média vietnamien.
Mais soyons encore plus précis, Hang, comment cette diaspora vit-elle la situation ?
Alors, d'après l'interview, donc jusqu'au le 17 janvier dernier, ils n'ont rien remarqué de spécial, à part des mesures de restriction contre le Covid-19. Et d'après plusieurs Vietnamiens qui vivent longtemps à Kharkov, la situation à la frontière russe et ukrainienne n'est pas aussi grave que ce qui est décrit par les médias occidentaux. Ils s'inquiètent surtout que ces tensions aient de l'impact sur l'économie locale et la vie des habitants. Les chances commerciales entre Kharkov et la région de Donbass, contrôlée actuellement par les séparatistes ukrainiens, a été coupé. Les commerçants vietnamiens ont donc perdu une source de gros acheteurs. Ils doivent aussi faire face à l'augmentation du prix du gaz et du coût de la vie quotidienne. En résumé, ils ne souhaitent pas qu'un conflit armé se produise alors que la situation générale connaît déjà une amélioration seulement depuis quelques années après les manifestations en 2014.
Encore une chose concernant cette crise russo-ukrainienne, Matej Wiśniewski, ce qui a retenu votre attention dans la presse française, c'est un titre plutôt optimiste.
Oui, c'est l'analyse de Renaud Girard qui a publié un article dans Le Figaro avec ce titre « Vladimir Poutine n'envahira pas l'Ukraine ». Voilà, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, d'où il sait ça. Alors, malgré le fait que Poutine ne considère pas l'Ukraine comme un pays, malgré le fait que Poutine considère toujours les Ukrainiens comme des frères, des petits frères, des frères cadets du Russe, il n'entrera pas sur le territoire ukrainien avec les chars, car il a déjà obtenu ce qu'il voulait, la Crimée. C'est le fil de la démonstration du journaliste et essayiste Renaud Girard. Bon, Vladimir Poutine sait ce qui est arrivé à l'armée russe en Afghanistan. Il se souvient sûrement des nombreux sacrifices de l'armée russe pour pacifier la Tchétchénie. Et probablement que Poutine n'a pas besoin d'un long conflit, d'une guerre de guérilla avec les Ukrainiens qui sont de toute façon déterminés à résister à tout prix. En même temps, Poutine n'acceptera jamais l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. On a répété ça, il faut le dire encore. Et éventuelle installation en Ukraine d'armes occidentales capables de menacer la Russie. Poutine a déjà protesté lorsque les Américains ont livré des missiles anti-chars Javelin à l'armée ukrainienne et lorsque les Turcs ont vendu des drones militaires sophistiqués à l'Ukraine.
Bien sûr, sur RFI, quelles que soient les antennes, nous reviendrons sur les évolutions de cette tension dans l'est de l'Ukraine. Vous écoutez Accent du Monde.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Accent du Monde avec les rédactions vietnamiennes, roumaines et chinoises pour des sujets maintenant particulièrement traités sur vos différentes antennes et canaux. À Pékin, tout d'abord, ce sont les derniers préparatifs en ce moment même pour que tout se passe bien aux Jeux Olympiques qui commenceront dans quelques jours, ce sera le 4 février. La Chine prend toutes les mesures nécessaires pour éviter des contaminations par le Covid-19, sont notamment filtrés tous les accès à sa capitale depuis l'étranger, voire d'autres villes chinoises, et malgré les mesures draconiennes, quelques cas sont détectés dans différents districts de Pékin. Nina Luang, il y en a combien à ce jour ?
Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas depuis une semaine se stabilise autour de 3-4 personnes par jour à Pékin. Les variants Delta et Omicron s'y sont tous infiltrés. Vu cette situation, la ville de Pékin désigne actuellement 2 zones à risque moyen. Le reste de la ville reste zone à faible risque.
Juste pour mémoire, Pékin, c'est combien d'habitants ?
C'est très très grand, j'ai pas de chiffres spécifiques, mais 4-5 fois celui de Paris.
Donc Paris, c'est avec la région parisienne 12 millions, et ça fait, nous fait 50-60 millions, donc 3 à 4 par jour finalement, c'est assez peu. Mais avec un variant, ça peut aller malgré tout très vite. Vous parliez de zone à risque moyen, ça veut dire quoi ?
Cela signifie que si quelqu'un arrivait à Pékin ou passait par Pékin depuis 14 jours ou moins, il verra sur son pass sanitaire, il y a aussi ce pass en Chine, marqué un signe astérix. Ici, passer par signifie rester à Pékin pendant plus de 4 heures. Son pass sanitaire reste tout de même vert, mais cette petite étoile va lui causer des problèmes dans la vie quotidienne. Car bien qu'il puisse encore voyager théoriquement, c'est fortement conseillé de minimiser les voyages non essentiels. Les restrictions spécifiques sont laissées à l'appréciation de chaque ville ou province de destination qui, parfois par peur de l'apparition des nouveaux cas locaux, instaure des isolations de 14 jours ou plus sans du tout de possibilité de sortir. Ce qui fait que pas mal de gens travaillant à Pékin ont du mal à partir voir leur famille dans d'autres villes lors du Nouvel An chinois, le réveillon donc cette année le 31 janvier.
Et comment est-ce que les Pékinois vivent cette situation ?
Les gens sont frustrés et ça se voit à travers des centaines de milliers de commentaires sur Weibo, équivalent de Twitter version chinoise. Surtout avec l'arrivée des sportifs étrangers pour les Jeux Olympiques, les Chinois se sont traités de l'injustice par leur propre pays. Certains se demandent pourquoi les étrangers qui apportent le risque de contamination peuvent voyager et arriver tranquillement en Chine, alors que les bons citoyens chinois sont contraints de faire des sacrifices afin que cet événement international puisse se dérouler sans faille. D'autres s'interrogent sur l'efficacité de Chine de la politique du zéro Covid, en évoquant l'expérience occidentale, surtout française et anglaise, d'avoir pu enfin coexister avec le virus pour que les gens puissent vivre et éviter l'étouffement de l'économie. Mais ce point de vue est submergé très rapidement par les critiques selon lesquelles le modèle occidental de vivre avec le virus ou de se laisser faire se repose sur les os et les corps des victimes mortes du Covid.
Il y a donc des craintes et des risques. Comment est-ce que la Chine entend s'y prendre pour limiter la propagation du Covid pendant les Jeux Olympiques ?
Les autorités chinoises y ont instauré un système dit « bulle sanitaire ». C'est une séparation totale de l'environnement que fréquentent les étrangers et les locaux chinois. Les deux ne se croisent jamais au niveau de l'espace et du temps sans désinfection totale. C'est comme si les visiteurs étrangers et les Chinois locaux sont dans chacun sa propre bulle, chacun son propre environnement biologique ou épidémiologique. Pour sortir de cette bulle sanitaire, les étrangers doivent effectuer une longue et stricte isolation s'ils veulent visiter Pékin à la fin des Jeux Olympiques.
Oui, en tout cas, ce ne sera pas la fête comme sont d'ordinaire les Jeux Olympiques. Cette tension autour de la situation sanitaire a-t-elle un impact sur la manière dont les étrangers en général en Chine sont vus et sont traités ?
Absolument. Dans certaines vidéos qui deviennent virales sur l'Internet, certains étrangers qui ne portent pas correctement le masque, c'est-à-dire ne couvrant que la bouche par exemple, se sont fait crier dessus par les passants locaux chinois qui parfois leur demandent de rentrer chez eux avec une visible agressivité. Il y a aussi d'autres exemples plus positifs où les étrangers participent comme volontaires pour aider à effectuer des tests du Covid ou de livrer des matériaux ou de quoi manger qu'attendent les locaux en isolation. De toute façon, c'est une période très particulière où tout le monde sont plus sensibles face aux incertitudes, surtout dans un pays qui refuse encore de coexister avec le virus. Il y a des tensions, des incompréhensions, des frustrations, mais à part les étrangers qui sont vraiment coincés en Chine, il y a aussi celles et ceux qui vivent depuis longtemps avec leur famille chinoise sans vouloir partir, partageant avec les locaux la même peur et les mêmes espoirs.
Avec donc des Jeux Olympiques qui commencent le 4 février, bien évidemment, la rédaction chinoise suivra cela de très près. Pour RFI, c'était Nina Luang de la rédaction chinoise. Cela fait un an que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Le président américain a reconnu quelques difficultés pendant sa première année de mandat. Évidemment, la rédaction vietnamienne s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis, un pays avec lequel il y a eu une guerre dans les années 60-70. Intéressons-nous donc à cette année concernant les relations entre Hanoï et Washington. Les Tuang, quel bilan en faites-vous ?
Alors, le Vietnam et les pays de l'ASEAN en général ont eu l'impression d'être oubliés pendant 6 premiers mois de la présidence de Joe Biden, pendant que Washington cherchait à soigner et à améliorer les relations avec leurs alliés et partenaires européens qui se sont dégradés fortement sous l'administration de Trump. Donc, il faut rappeler que l'Asie du Sud-Est est considérée comme une région clé dans la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis, dont l'objectif est de contrer l'influence chinoise. À partir de juillet 2021, on a remarqué un rattrapage. Les autorités américaines poursuivent la stratégie envers cette région, mise en œuvre par l'administration précédente, mais de façon moins agressive et plus habile.
Et dans cette stratégie indo-pacifique, il semble que le Vietnam joue un rôle important.
Alors c'est exact parce que l'importance du Vietnam a été évoquée dans un document établi sous l'administration de Donald Trump et déclassifié au début de 2021 et dans lequel le Vietnam et l'Indonésie étaient considérés comme les partenaires essentiels de Washington dans la région, la Thaïlande et les Philippines, donc deux pays alliés ayant accord avec les États-Unis dans la région, n'y ont pas mentionné. Un autre exemple plus récent, le Vietnam et l'Inde ont été évoqués le 19 novembre dernier par Colin Campbell, le coordinateur indo-pacifique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, comme les pays clés pour projeter l'avenir de l'Asie. Donc d'après le chercheur vietnamien Lee Hong Hiep à l'Institut d'études sur l'Asie du Sud-Est à Singapour, cela montre qu'il n'y aurait pas de grand changement en ce qui concerne le rôle du Vietnam dans la politique des États-Unis envers l'Asie du Sud-Est.
Alors, l'administration de Joe Biden a donc oublié les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, pendant les 6 premiers mois de son mandat. Comment est-ce que cette administration a rattrapé ce retard ?
Alors, pendant l'interview avec la rédaction vietnamienne lundi dernier, le chercheur Lee Hong Hiep a résumé en 4 points principaux. Écoutons-le.
Quelle est son analyse ?
Alors, il a expliqué qu'il s'agit d'abord des visites de hauts dirigeants de deux pays, le secrétaire de défense Lloyd Austin, puis la vice-présidente américaine Kamala Harris, sont allés à Hanoï en l'été dernier. Le président vietnamien Wilson Phuc, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre, a participé à plusieurs événements permettant de renforcer les relations avec Washington. Les États-Unis ont offert au Vietnam 20 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, devenant donc le plus grand donateur. Ils ont aussi offert des navires de garde-côtes dans le cadre du partenariat stratégique pour soutenir le renforcement de la sécurité maritime du Vietnam. Le dernier point sur le plan commercial, en avril dernier, le Trésor américain ne qualifie plus le Vietnam de pays manipulateur de sa monnaie, ce que l'administration Trump l'accusait toujours.
Et puis, les États-Unis auraient suggéré de renforcer le partenariat stratégique en partenariat stratégique global. Pourquoi est-ce qu'Hanoï hésite ?
Alors, nous avons posé cette question au chercheur Nguyen Hong Hiep à Singapour et voici son analyse.
Le Vietnam, c'est important.
Que vous a-t-il dit ?
Alors, il a expliqué que tout d'abord, les États-Unis jouent un rôle important pour Hanoï qui cherche aussi à renforcer les relations bilatérales. Pourtant, ces relations ne devraient pas nuire à la coopération avec la Chine, qui reste le premier partenaire commercial du Vietnam. D'ailleurs, dans le contexte de tensions actuelles entre Washington et Pékin, le Vietnam souhaite maintenir un certain équilibre pour ne pas être entraîné dans ce conflit et garder sa souveraineté. Hanoï ne veut pas devenir non plus un terrain de chantage entre ces deux puissances dans d'autres négociations. Et ensuite, malgré le titre actuel « partenariat stratégique », les relations entre les deux pays sont déjà réalité au niveau supérieur, c'est-à-dire que le partenariat stratégique global. Et d'après le chercheur Nguyen Dong Hiep, c'est peut-être l'année 2023 qui marque le 10e anniversaire du partenariat stratégique constituerait une occasion propice pour que le Washington et Hanoï conviennent de signer le partenariat stratégique global.
Voilà donc pour l'état des relations entre Hanoï et Washington. C'était Lê Thu Hoang de la rédaction vietnamienne de RFI. En France commence l'année Molière. C'est une grande fête culturelle occasionnée par les quatre siècles qui se sont écoulés depuis la naissance de l'écrivain et homme de théâtre, le plus joué des auteurs dramatiques français à l'étranger. Il a été un nom emblématique également à l'époque communiste dans les pays de l'Europe de l'Est. Mathieu Wichniec, vous avez abordé ce sujet pour la rédaction en langue roumaine.
Oui, encore avec un grand plaisir, parce que moi-même, dans les années 80, à Bucarest, où j'étais étudiant, au moment où la mégalomanie de Ceausescu, le président roumain était à l'apogée, j'étais marqué par le caractère subversif des pièces de Molière montées en Roumanie. Et c'est pareil en Union soviétique, en Pologne, en Hongrie, en Serbie. Il ne faut pas oublier, non, Molière, ses comédies, il fustigeait la bêtise, l'égoïsme, la mégalomanie, la méchanceté, d'autres défauts, déviations. Et puis, on retrouvait dans notre société à cette époque-là tout ça, bien sûr, d'une autre forme. Mais Molière parlait de ce que nous étions en train de vivre à cette époque-là. Alors, il était placé, il faut que je dise ça, dans la catégorie des auteurs qui font partie du patrimoine de la littérature universelle. Donc, il n'était pas interdit ou censuré. Il était à côté de Shakespeare, Goldoni, Tchekhov, Goethe, à côté des auteurs de la Grèce antique, Sophocle, Aristophane, Euripide. Les fourberies du Scapin, Le malade imaginaire, Tartuffe, L'école des femmes étaient donc des pièces montées partout, je répète, en Union soviétique et dans les autres pays de l'Europe de l'Est. Bien sûr, la censure veillait à ce que les mises en scène se fassent en costume d'époque, dans un esprit du comédia dell'arte, c'est-à-dire que les textes de Molière ne soient pas actualisés.
Et apparemment, Mattei, c'est justement cela que les metteurs en scène ont essayé de faire.
Exactement, et j'ai demandé l'avis d'un critique du théâtre roumain, Madame Doina Pape, qui a écrit beaucoup sur Molière, qui nous a expliqué la mécanique de la dénonciation de la dictature par la mise en scène des pièces de Molière.
Interesant și de remarcat este în special deceniul 8 al secolului trecut, deceniul în care...
Que dit Doina Pape?
Il est intéressant, remarquable de ce point de vue, la décennie 80 du siècle dernier. Comme on le sait, la dictature était féroce. Et c'est alors que des metteurs en scène importants ont inclus dans leur répertoire les comédies célèbres de Molière. Ils ont fait un titre de gloire même. Les impératifs du jour devenaient visibles à travers la mise en scène. Par exemple, un metteur en scène qui avait monté Tartuffe de Molière et la cabale de Bigot du Bulgakov à Bucarest, comme un spectacle en deux parties. Tartuffe devenait un imposteur contemporain, et dans la pièce de Bulgakov, Molière devenait l'artiste écrasé par les bigots, par le pouvoir dogmatique, par la servitude volontaire. Donc on était en plein actualité.
Et pour autant, ça passait. C'est-à-dire que les metteurs en scène arrivaient à contourner la censure.
Et oui, Doina Pape dit cela, le critique du théâtre. Donc, je cite, les politruques, les culturniques, on peut le dire comme ça en français, les politruques, enfin ceux qui dirigeaient la culture à cette époque, ne savaient pas lire une métaphore au-delà de la lettre du texte, du style allusif ésopique pratiqué par le théâtre roumain à l'époque. Il y avait aussi un tas d'allusions qui faisaient le délice du public. Pour résumer, je peux dire que presque dans tous les théâtres nationaux, d'État et municipaux en Roumanie, entre 1945 et 1989, au moment de la chute du communisme, il y a eu au moins une pièce de Molière montée.
Est-ce que la situation a changé après la chute du communisme ?
Eh bien non, Molière est resté actuel. Bon, donc il y a une période de transition qui a commencé, il y a le capital sauvage qui est arrivé, et Molière est resté toujours vivant et actuel dans cette période de transition qui est un peu, ça se prolonge, parce qu'on a vu surgir dans l'espace public d'autres imposteurs, d'autres caricatures.
Donc Molière toujours aussi contemporain, où que ce soit dans le monde. Mathé Vichniec de la rédaction roumaine de RFI, c'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI. En sol